RCF.
L'Hebdo-Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Et bonjour à toutes et à tous, c'est la rentrée de l'Hebdo-Région, bienvenue si vous nous rejoignez. Et il est l'heure de revenir sur les informations à retenir de ces derniers jours. Après quelques semaines de vacances, la rentrée a sonné pour bon nombre d'enfants et professeurs des Pays de la Loire, une rentrée un peu chamboulée par la réforme du collège. Nous ferons le point sur ce dossier avec Anthony Torzek de Fidélité Nantes. L'autre actualité de la semaine, c'est l'accord conclu mardi à Laval entre les éleveurs et le groupe Lactalis concernant l'augmentation des prix du lait. Samuel Pecot de Fidélité Mayenne a rencontré l'un des 5 agriculteurs qui a pris part aux négociations. Après Nantes, Angers, Laval et la Vendée, c'est au tour du Mans d'être labellisé French Tech, une reconnaissance qui devrait permettre à la ville de développer davantage son tissu économique dans la filière automobile. Sa lutte pour aider les plus démunis l'a amené à recevoir le prix Nobel de la paix en 1979. Mère Teresa sera canonisée ce week-end à Rome. À cette occasion, Maria Goyer a rencontré une religieuse indienne. Elle témoigne de l'importance du travail réalisé par Mère Teresa dans son pays. Enfin, nous évoquerons les premières tendances de la fréquentation touristique en Pays de la Loire cet été. Malgré les manifestations, les conditions climatiques maussades en juillet et le contexte sécuritaire en France, la région ne s'en sort pas si mal. Voilà pour le sommaire de cette hebdo-région présentée par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les autres radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'hebdo-région, l'actu de la semaine.
Plus de 725 000 élèves ont fait leur rentrée scolaire cette semaine dans les 5 départements de l'Académie de Nantes, soit plus de 4 000 que l'année dernière. Une rentrée 2016-2017 marquée par plusieurs phénomènes. D'abord, la pression sécuritaire, ensuite les nouveaux programmes en primaire, mais surtout la mise en place de la réforme du collège. Bonjour Anthony Torzek.
Bonjour Bastien et bonjour à tous.
Vous avez évoqué ce dernier thème avec le recteur de l'Académie de Nantes, William Marois.
Oui, c'est surtout la réforme du collège qui est importante pour le recteur, mais aussi pour tous les parents cette année, car elle entre en vigueur en cette rentrée 2016. Elle a pour ambition, cette réforme, de permettre aux élèves de mieux apprendre, de mieux réussir en s'appuyant sur les modalités suivantes. D'abord, on développe les temps d'apprentissage en petits groupes, on renforce l'enseignement des langues vivantes et on crée des temps d'accompagnement personnalisés pour tous les élèves. La présentation avec le recteur de l'Académie de Nantes, William Marois.
Je vais vous la résumer autour de 3 termes qui commencent tous les 3 par A. Le premier, c'est plus d'autonomie. L'autonomie, 20% des horaires sont à la disposition des établissements pour qu'ils puissent mettre en place des dispositifs qui répondent aux besoins spécifiques de leurs élèves. Le deuxième terme, les apprentissages qui sont faits avec de nouveaux programmes et puis avec un dispositif d'apprentissage particulier qui s'appelle les enseignements pluridisciplinaires. Et puis toujours sur le plan des apprentissages, c'est l'introduction de la deuxième langue vivante dès la classe de 5e pour tous. Le troisième A, c'est l'accompagnement, parce que le passage de l'école au collège, c'est quelque chose de compliqué pour les jeunes. Et donc, on renforce l'accompagnement personnalisé en classe de 6e. Ça fait partie de ces heures qui sont à la disposition d'établissements pour qu'ils puissent mieux répondre aux besoins spécifiques, à raison de 3 heures par semaine en classe de 6e. Et ça sera poursuivi sur ce qu'on appelle le cycle 4, c'est-à-dire les classes de 5e, 4e et 3e, à raison d'une heure par semaine.
Le recteur de l'Académie de Nantes, William Marois.
À noter qu'un collège de Nantes a décidé d'appliquer cette réforme à l'extrême. Il supprime toutes les classes de la 5e à la 3e, disparition également du système de notation traditionnel. Et cet établissement, c'est le collège de Saint-Raphaël à Nantes, Anthony.
Oui, Bastien, ce collège va vraiment très très loin, vous l'avez dit. Fini les classes de 5e, 4e et 3e, mais aussi fini les notes. Les élèves, en fait, sont rassemblés en fonction de leur niveau et par discipline. C'est-à-dire qu'on peut être dans un niveau plus faible en français et par exemple en mathématiques être dans les meilleurs. On met donc ces élèves en fonction des niveaux et puis on peut changer d'un niveau à l'autre au cours de l'année. Bref, c'est un vrai changement. C'est ce que nous explique Viviane Henry. C'est la directrice de cet établissement. Le collège Saint-Raphaël à Nantes.
Le changement va surtout porter sur le cycle 4 hein, qui est constitué des 3 niveaux 5e, 4e, 3e. Nous allons fonctionner dans ce cycle par groupe de compétences à géométrie variable. Ils auront quand même une classe d'appartenance, mais pour un ensemble de disciplines littéraires et scientifiques, ils seront positionnés dans des groupes de besoins correspondant à leur niveau.
Ouais.
Voilà.
L'intérêt pour les élèves, c'est vraiment de faire une personnalisation de l'enseignement?
Oui, parce que, comme en quand ça leur permet de progresser à leur rythme. Alors bien évidemment, hein, au collège Saint-Raphaël, on autorise l'erreur. Ils vont travailler aussi avec des supports variés, du fait aussi de la petite taille de l'établissement. Hein, il y a une proximité relationnelle avec les enseignants. Et tout ça, en fait, ce sont autant d'atouts qui, pour nous, sont importants pour que l'élève prenne ou reprend confiance en lui et devient surtout acteur de son parcours scolaire.
Viviane Henry, la directrice de cet établissement, une expérimentation qui pourrait marcher grâce notamment au fait que ce collège est plutôt petit, hein, il faut le dire, 140 élèves pour ce collège, 15 enseignants seulement, donc on peut travailler davantage ensemble, une expérimentation en tout cas unique dans l'Académie des Pays de la Loire, dans l'Académie de Nantes, qui sera particulièrement suivie par le recteur, c'est ce qu'il nous a dit.
Anthony Torzec de Fidélité Nantes, merci. Anthony, on vous retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
On reste du côté de Nantes, justement, puisque l'on a appris cette semaine qu'un nouveau patient venait de recevoir un cœur artificiel développé par la société Carmat. Il s'agit du 5e en France à bénéficier de cette avancée médicale. Les 4 premiers sont malheureusement décédés. La recherche angevine également mise à l'honneur. Une équipe du Maine-et-Loire vient de découvrir un nouveau gène responsable d'épilepsie sévère chez l'enfant. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans une revue scientifique américaine. Il sera alors désormais possible d'améliorer le diagnostic précoce des patients atteints de cette pathologie. Les fortes chaleurs des dernières semaines ne sont pas du goût du vignoble nantais. Les vignes commencent à souffrir du manque d'eau. Si la pluie ne tombe pas d'ici mi-septembre, la production de muscadet devrait baisser à 20 hectolitres l'hectare contre 50 à 55 hectolitres en temps normal. L'État, la région et le département de la Vendée ont fait mercredi à Noirmoutier le point sur la mise en place de dispositifs pour lutter contre les inondations et les risques de submersion marine. 7 couvrent actuellement le littoral vendéen, ce qui équivaut à près de 78 millions d'euros d'aides publiques pour conforter, rehausser ou créer des digues. Sur 76 km de travaux programmés, les chantiers sont lancés pour 24 km et l'ensemble devrait être livré d'ici à 2020. Enfin, le deuxième RIMA s'agrandit. Une 5e compagnie a été créée au sein du régiment de Champagné. De nouvelles recrues qui ont pour beaucoup décidé d'entrer dans l'armée à la suite des récents attentats en France. Mais ce n'est pas toujours facile de convaincre les jeunes de s'engager pour 5 ou 10 ans. Alors, les contrats ont été revus. Les Marsouins peuvent maintenant signer pour 1, 2 ou 3 ans. À noter que plusieurs dizaines d'hommes du régiment sartois participent actuellement à l'opération Sentinelle. 2 compagnies sont stationnées à Paris.
L'Hebdo-Région, rencontre avec...
Et hormis la rentrée, un autre événement a beaucoup fait parler de lui cette semaine. Bonjour Samuel Pecot.
Bonjour Bastien, bonjour à toutes et à tous.
Cette fin d'été à Laval a été marquée par de forts pics de température, une chaude ambiance qui est très vite devenue orageuse entre les producteurs de lait et le géant mondial Lactalis. Pendant 9 jours, plusieurs centaines d'éleveurs ont débarqué en Mayenne avec leurs tracteurs pour bloquer le siège de l'industriel. Objectif, obliger le numéro 1 mondial du lait à mieux rémunérer le producteur. Des discussions longues et particulièrement tendues auxquelles participait notamment Florent Renaudier, le vice-président de la FDA. Le vice-président de la FDSEA 53 est le vice-président de la FDSEA 53 est producteur de lait pour Lactalis à Laubrière. Vous l'avez rencontré, Samuel, à l'issue des négociations.
Oui, Bastien, il aura fallu effectivement 9 jours de manifestation et 25 heures de négociations à huis clos pour que les deux parties se mettent d'accord sur une revalorisation du prix du lait. Après un échec des négociations à Paris, c'est en préfecture de Laval que l'accord a été trouvé et signé mardi dernier. Et d'ailleurs, c'est à souligner, hein, le nouveau préfet de la Mayenne, Frédéric Vaux, a joué un rôle très précieux pour rapprocher les deux parties et trouver cet accord national qui bénéficiera tout de même à 20% des éleveurs français qui produisent du lait pour Lactalis. Puisqu'effectivement, la multinationale a été fondée à Laval en 1933, elle est aujourd'hui présente partout dans le monde, elle a de nombreux sites de production un peu partout en France, mais elle a gardé son siège ici à Laval, où elle emploie environ 2000 personnes. C'est l'un des plus gros employeurs du département. Alors vous imaginez donc qu'en Mayenne, terre d'agriculture, on a suivi de très près les négociations. Et comme vous l'avez dit Bastien, un producteur de lait mayennais était l'un des 5 négociateurs. Il s'agit de Florent Renaudier et lui qui produit du lait pour Lactalis a donc négocié pour que le leader mondial revienne à un prix plus proche de leur coût de production. Il était fatigué mardi soir quand je l'ai rencontré, mais satisfait de cet accord, même s'il a bien conscience que tout n'est pas réglé dans cette crise du lait.
C'est une petite bouffée d'oxygène. Même avec ce qui a été conclu aujourd'hui, les producteurs de lait sont encore en crise, avec un prix de revient qui est au-dessus. Mais il fallait stopper cette spirale à la baisse, pouvoir entamer des négociations pour redéfinir une nouvelle méthodologie de fixation du prix du lait. Et là, on a donc l'engagement des organisations de producteurs et aussi du groupe Lactalis pour travailler sur ce sujet.
Ce qui a déclenché la colère des producteurs, c'est le prix de 26,5 centimes le litre payé par Lactalis aux producteurs en juillet dernier, le plus bas du marché français. Et comme nous l'a dit Florent Renaudier, les producteurs ont tout simplement voulu dire stop à cette baisse continue depuis la fin des quotas laitiers européens.
Il y avait un objectif d'arrêter la baisse. Ça s'est traduit par une négociation à 290 euros au 1000 litres sur les 5 derniers mois, en commençant au mois d'août à 280 euros au 1000 litres prix payé producteur et pour finir au mois de décembre à 300 euros.
Et surtout, envisager de meilleures perspectives en 2017, car Florent Renaudier nous l'a dit, 300 euros les 1000 litres de lait, selon lui, ça ne couvre pas encore les coûts de production. Mais il espère qu'après cette action d'envergure, tous les industriels du lait n'imposeront plus leur prix d'achat, mais les fixeront désormais en concertation avec les producteurs. Et d'ailleurs, il rappelle bien que l'entreprise Lactalis n'est pas la seule responsable de la crise du secteur laitier.
Le plus grand groupe européen, voire même mondial, donne le ton en tant que leader aux autres. Et on sait que quand un leader tire les prix vers le bas, il emmène l'ensemble de la filière vers le bas. Et quand un leader tire les prix vers le haut, il emmène aussi ses concurrents aussi sur un prix du lait qui augmente.
Un prix qui pourrait aussi augmenter dans les rayons des supermarchés. Florent Renaudier trouve que la grande distribution, souvent montrée du doigt par les producteurs dans le passé, est aujourd'hui à leur côté pour les rémunérer à la hauteur de leur travail. Un travail que l'on sait difficile. Espérons que désormais les éleveurs le feront avec un peu plus de confiance dans l'avenir.
On va pouvoir maintenant se projeter jusqu'à la fin de l'année pour élaborer une stratégie dans les exploitations laitières pour passer au mieux la crise. Boucler deux années à suivre avec des résultats négatifs, ça nous pose question, ça nous pose interrogation pour nous, pour notre exploitation, pour notre famille.
C'était donc Florent Renaudier, éleveur laitier à Lobrières en Mayenne, l'un de ceux qui ont permis à Lactalis et ses producteurs de trouver un accord sur le prix du lait.
Un témoignage recueilli par Samuel Pecot de Fidélité Mayenne. Merci Samuel, à la semaine prochaine. Sans plus attendre, on file en Sarthe.
L'Hebdo Région, initiative.
La Sarthe nous attend au Berry Métro de RCF Le Mans. Bonjour au Berry.
Bonjour Bastien.
Avec vous, nous allons parler numérique. Après la Vendée, Nantes, Angers et Laval, il ne manquait plus que la Sarthe dans le dispositif French Tech. Et ça y est, c'est fait, Le Mans a été labellisé.
Et oui, ce sont en tout 21 territoires qui ont obtenu cette certification qui est remise par le ministère de l'Économie. L'annonce a d'ailleurs été faite par Emmanuel Macron à Laval. Le Mans, une nouvelle fois donc à la pointe de la technologie. C'est en tout cas ce qu'espèrent les différents acteurs économiques. Marlène Schiappa est chargée de l'innovation pour Le Mans Métropole.
En fait, les nouvelles mobilités et particulièrement l'automobile connectée, ça réunit beaucoup de points d'expertise du Mans. Au Mans, on est expert en termes d'acoustique, on est expert en termes de voitures avec la CO, les 24 heures du Mans. Je pense qu'il y a un savoir-faire qui est reconnu et également en termes d'assurance, avec notamment Covéa qui s'est beaucoup impliqué dans la conduite du dossier Le Mans Tech. Et l'automobile connectée, elle est finalement à la croisée de tout ça. Pour l'instant, ça nous paraît être un peu futuriste et un peu technologique et abstrait, mais plusieurs études montrent qu'il y aura plus de 20 millions d'automobiles connectées dans les deux prochaines décennies. Donc c'est quelque chose qui va vraiment avoir un impact là très bientôt.
Et chaque ville travaille sur des innovations dans un domaine particulier au Berry.
En mettant en relation les start-up et les grosses entreprises, un partenariat dans lequel compte s'investir STM Microélectronique, qui est une des grosses entreprises de l'agglomération du Mans. Éric Gérondeau est son directeur.
Le principe de la French Tech, c'est de faire en sorte que les acteurs économiques du marché local, et en particulier les industriels, accompagnent des jeunes pousses, accompagnent des start-up dans leur développement, de façon à premièrement promouvoir notre savoir-faire et nos technologies, et deuxièmement, faire en sorte que ces startups soient nos clients et nos partenaires de demain. Pour moi, patron du site de ST Microelectronics, ça veut dire que dès demain, j'ouvre mes labos à des jeunes start-upers qui veulent développer des produits dans le domaine des nouvelles mobilités. Je suis prêt à les accompagner, à faire en sorte qu'il y ait des ingénieurs de mes équipes qui les aident à développer leur technologie. Je suis prêt à ouvrir mes laboratoires de tests pour qu'ils puissent mettre au point leurs inventions. Et puis, ce que j'attends d'eux aussi, c'est qu'ils nous aident à développer des nouvelles technologies. Ils posent des défis en fait techniques à mes équipes, de façon à ce que demain, on soit mieux à même de répondre aux besoins des marchés.
Et le nouveau défi technologique chez nous au Mans, ce sera la voiture connectée. Sans clé, elle pourra reconnaître la voix du chauffeur et elle sera aussi capable de conduire toute seule.
Des projets auxquels va naturellement participer l'ACO, organisateur entre autres des 24 heures du Mans.
En permettant notamment aux entrepreneurs sartois de voyager dans le monde entier grâce aux courses d'endurance organisées en Amérique ou en Asie. Frédéric Lénard est le directeur général de l'ACO.
Il faudra le prévoir aussi probablement avec les chambres de commerce sur place qui permettront de ramener des interlocuteurs ou des partenaires sur les courses. Et nous, on a tout intérêt à ce que les courses soient des plateformes d'expression. Et si on le prépare suffisamment à l'avance, je pense que ça peut être très efficace. On a la taille d'une PME, mais on a une résonance mondiale quand on parle de compétition automobile. Savoir qu'on est l'Automobile Club de l'Ouest est à la limite plus connue en dehors des frontières qu'en France. Et aujourd'hui, on met en avant notre réseau, notre système de course et de compétition internationale avec un championnat du monde qui se déplace sur tous les continents et aussi un championnat européen, un championnat asiatique qui font qu'on offre une exposition effectivement sur les principaux pays de la planète et ça on le met en avant et on le mettra à disposition de Le Mans Tech et puis également on mettra à disposition notre réseau de partenaires, notamment les constructeurs automobiles, les équipementiers qu'on va pouvoir solliciter pour aider au développement de Le Mans Tech et des startups qui viendront s'installer chez nous.
Et cela devrait normalement permettre d'attirer de nouvelles entreprises en Sarthe et donc à terme de créer des emplois. Le Mans Tech devrait s'installer dans des locaux situés près de la gare, à côté des bâtiments des MMA. Pour ceux qui prennent le train pour aller à Paris, vous avez sans doute l'habitude de les voir par la fenêtre.
Merci Aubery, à la semaine prochaine.
L'Hebdo-Région, pause spirituelle.
Bonjour Maria Goyer.
Bonjour Bastien, bonjour à toutes et à tous.
À deux jours de la canonisation de la bienheureuse mère Teresa à Rome, vous êtes allée à la rencontre d'une religieuse indienne, sœur Shushma.
Et oui Bastien, elle vit à Angers pour apprendre le français à l'Institut Mission Langue. Shushma est sœur de la congrégation du Père de Montfort, les Filles de la Sagesse. Et nous lui avons demandé comment, en tant qu'indienne, elle percevait la canonisation d'une religieuse qui a tant œuvré pour son pays. On l'écoute.
They feel that their own mother like that.
Donc, Mère Teresa, c'est un petit peu la mère de tous les Indiens. C'est le sentiment qu'ils ont, et particulièrement les pauvres et les orphelins, puisqu'elle a beaucoup œuvré pour les nécessiteux et les orphelins.
Vous-même, qu'a-t-elle apporté dans votre vie de foi, de chrétienne?
Elle l'a inspirée dans la prière et dans l'apostolat aussi. Alors l'apostolat, c'est le travail des religieux, des religieuses. Donc, à la différence de la vie contemplative, l'apostolat, c'est le fait de travailler pour différentes œuvres, pour différents services, voilà, partout dans le monde.
Justement, comment vous décririez ou qu'est-ce que vous avez constaté de l'œuvre des missionnaires de la charité, particulièrement en Inde?
C'est essentiellement une aide apportée aux enfants handicapés. C'est essentiellement ça qui a évolué en Inde depuis l'action de Mère Teresa. Quand on connaît le système des castes en Inde et la manière dont les pauvres et particulièrement les populations handicapées, les enfants abandonnés qui sont très nombreux vivent en Inde, c'est... Il y a un avant et un après Mère Teresa, ça c'est certain. Il y a encore du travail à faire, mais l'œuvre de Mère Teresa a fait beaucoup en ce sens, ça a fait beaucoup avancer les choses. Ça a inspiré beaucoup de personnes religieuses ou pas religieuses d'ailleurs.
C'est aussi pour ça qu'elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1979. C'était un symbole fort pour vous?
Yeah, it was very strong symbol for me. And it's inspiring.
Ça a été une grande joie pour les Indiens. C'est un symbole très fort et considère qu'elle a déjà vécu comme une sainte avant d'être canonisée.
Justement, on y vient à cette fameuse canonisation du 4 septembre prochain. Qu'est-ce que ça change pour vous que Mère Teresa soit canonisée, devienne sainte?
Already she was living since.
Si je comprends bien, c'est quelque chose qui est officialisé dans la mesure où elle est déjà considérée comme une sainte par les Indiens, par d'autres aussi sans doute. Donc c'est quelque chose qui prend un caractère officiel, mais c'était déjà une réalité avant.
I felt when I was.
Voilà, évoqué deux choses. D'abord le fait que Mère Teresa l'avait inspirée dans son appel. Enfin, c'était, ça faisait partie de son appel puisqu'elle avait 12 ans quand elle s'est sentie appelée. Et que c'était suite à une lecture à propos de la vie de Mère Teresa. La deuxième chose, elle a raconté une anecdote qui concerne Mère Teresa et un homme dans la foule avait craché sur elle et au lieu de se sentir offensée, elle avait considéré ça comme un cadeau. C'était ses propres mots. Et cet homme ensuite s'était rendu compte de son acte et elle l'avait pardonné. Il lui avait demandé pardon et elle l'avait pardonné.
Si vous deviez résumer, Mère Teresa, une action, une parole, vous avez déjà parlé d'anecdotes ou un mot, ce serait quoi ?
Loving mother.
Vivant sainte. Sainte, c'est le mot qui, pour Chouchma, résume parfaitement Mère Teresa.
Et la canonisation de Mère Teresa aura lieu ce dimanche à 10h30, heure de Rome.
C'est noté, Marie, merci. C'est ce week-end également qu'est inaugurée la maison Saint-Julien au Mans. Il s'agit de la toute nouvelle maison diocésaine qui regroupe tous les services de l'église en Sarthe et les nouveaux locaux de RCF. À cette occasion, une grande fête des familles est organisée avec notamment un atelier d'initiation à la radio. Une grande messe sera ensuite célébrée à 16h30 en la cathédrale Saint-Julien par Monseigneur Le Sceau, l'évêque du Mans.
L'hebdo-région, si on sortait.
Et on va profiter de cette dernière partie d'émission pour faire un point sur les premières tendances touristiques de cet été en Pays de la Loire. Fanny Brevet, bonjour.
Bonjour Bastien, bonjour à tous.
Alors les vacances sont terminées pour les enfants, l'heure est au bilan pour les professionnels du tourisme.
Et selon 4500 professionnels interrogés par le comité régional du tourisme, la saison a été stable dans les Pays de la Loire. Une saison sauvée par le soleil du mois d'août et la clientèle française. Comme au plan national, les étrangers, les Anglais en particulier, ont déserté notre région. Les villages vacances ont fait le plein. En revanche, les restaurateurs continuent de souffrir.
Et des tendances qui se confirment chez vous en Vendée, Fanny.
Et oui, 67% des professionnels du tourisme vendéen estiment que l'activité a été stable ou supérieure à 2015. Une saison qui se révèle donc satisfaisante malgré un démarrage difficile. L'avant-saison ayant été plombée par la conjoncture économique nationale avec des grèves, des pénuries d'essence, un manque de ponts sur le mois de mai ainsi qu'une météo maussade. Mais l'été a donc été bon, en particulier pour les hôteliers qui s'en tirent plutôt bien, comme le précise Wilfried Montassier, président de Vendée Expansion.
En effet, particulièrement, on peut le souligner pour l'hôtellerie dite classique qui affiche près de 80% de taux de satisfaction, qui dit notre saison sera stable, voire supérieure pour 37% d'entre eux à la saison précédente. Donc c'est une bonne nouvelle. Parmi tous les secteurs d'activité qui globalement vont bien, il y a un secteur, on le note hein, évidemment, et ils nous le disent, qui souffre davantage, c'est la restauration. Ce qui veut dire que les vacanciers font des arbitrages dans leurs dépenses et que peut-être que le premier arbitrage qui est fait dans une situation où il y a une baisse évidente du pouvoir d'achat, c'est fait au détriment de la restauration. On se rend compte là aussi dans les sites de loisirs, dans les sites à thème, dans l'ensemble des animations proposées sur le département, que ceux qui se portent très bien, c'est ceux qui apportent de l'innovation, des nouveautés à leur public. Et le public est très friand, très amateur de spectacles vivants notamment. Donc des festivals se portent bien, des sites d'animation se portent bien. Des sites à thème comme le Puy du Fou, vous le savez, fait une saison remarquable parce qu'il y avait de très belles innovations.
Et un petit bémol pour cette saison, la fréquentation touristique étrangère se dégrade légèrement par rapport à 2015. Vendée Tourisme, qui voit là un potentiel de développement, en fait donc une priorité. Alors comment attirer cette clientèle, en particulier celle du nord de l'Europe ? La réponse de Wilfried Montassier.
Il faut poursuivre nos démarches de communication, de promotion en leur direction. Alors, on n'a pas les moyens économiques, la force de frappe pour faire des grandes campagnes publicitaires, et en Grande-Bretagne, et en Belgique, et en Allemagne, et aux Pays-Bas. Donc il faut être plus intelligent et plus astucieux à certains égards. Donc il faut le faire à travers les relais d'opinion, les leviers que l'on peut trouver sur place. Donc ça passe beaucoup par des relations presse, notamment avec la presse spécialisée. Donc on accueille des journalistes, on accueille des journalistes de filières, on est présent avec des filières touristiques vendéennes dans des salons à l'étranger. Et puis nous comptons aussi beaucoup sur une collaboration dans ce sens efficace avec la région. Parce que c'est, je pense, davantage à la région des Pays de la Loire, qui est à la fois un territoire plus important, mais qui a aussi plus de moyens de peut-être se projeter davantage à l'international et d'emmener les départements avec elle.
Alors on a parlé, Fanny, là, du premier bilan de cet été, mais pour l'arrière-saison, quelles sont les prévisions ?
Eh bien, elles sont prometteuses. 58% des professionnels estiment qu'elle sera stable ou supérieure à celle de 2015. Avec un atout de taille, le Vendée Globe, dont les retombées sont multiples, l'allongement de la saison, une exposition médiatique exceptionnelle et évidemment une visibilité à Paris.
Et merci Fanny. Pour ce point complet, une dernière information sympathique pour refermer ce magazine. Cet été, la Mayenne a battu le record du monde du plus grand pique-nique sur la plus longue nappe du monde, plus de 20 km, rendez-vous compte. Pour l'heure, le record n'est pas officiellement validé par le Guinness Book, mais ça ne saurait tarder. Près de 20 000 personnes s'étaient donné rendez-vous ce jour-là sur les bords de la rivière Mayenne pour faire la fête le long du chemin de halage. C'est la fin de cette hebdo région. Votre magazine d'actualité vous était présenté aujourd'hui par la rédaction de RCF Anjou avec l'aide des autres rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire. Merci de nous rester fidèles. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.